Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Pébart, je suis directeur de la revue des études anciennes et maître de conférences en histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne. Et j'ai le grand plaisir donc de présenter Pierre Judet de Lacombe et Myrto Gondikas, ainsi que Laure Lai, voilà, qui va lire des extraits de cette pièce donc, qui nous réunit ce soir, cette tragédie athénienne, qui s'appelle Les Perses, et dont donc l'auteur, le poète, s'appelle Eschyle. Alors, je dis d'un mot, donc je présente les deux traducteurs et traductrices, donc Myrto Gondikas, qui est une grande traductrice, qui traduit des textes de grec ancien, mais aussi de grec moderne, qui donc est tout à fait indiquée pour essayer de faire surgir peut-être la modernité de ces textes, et comment on peut les lire, et ce qu'on peut en retirer pour nous encore aujourd'hui, au-delà de, disons, la pure joie esthétique d'un rapport à la littérature comme une sorte d'activité tranquille, de mise à l'écart du monde et de ses troubles. Peut-être qu'au contraire, on peut essayer d'utiliser ces textes, même s'ils sont très anciens, pour y lire une forme de démarche réflexive, critique, pour penser, y compris le monde d'aujourd'hui. Pierre Judet de Lacombe est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est helléniste et philologue. Je sais que c'est toujours un terme qui peut surprendre, mais peut-être que pour lancer la discussion et essayer de comprendre comment cette traduction a vu le jour, je vais peut-être partir de ce que a écrit Pierre Judet de Lacombe à la fin donc, du volume « Eschyle les Perses ». Il y a un texte qui commente cette tragédie. Et Pierre Judet de Lacombe nous invite à utiliser cette démarche suivante, et c'est à Myrto Gondikas et Pierre Judet de Lacombe que je vais ensuite demander de la commenter ou de dire ce qu'elle implique. Il nous invite donc à la chose suivante: mieux vaut lire en se disant d'abord qu'on ne sait pas encore ce qu'on va lire, qu'on ne sait pas encore ce qu'était une tragédie. Alors, c'est une phrase, une affirmation qui peut surprendre pour des traducteurs et traductrices. Et donc, on a envie de savoir comment peut-on traduire quand on ne sait pas encore ce qu'on va lire. Alors, peut-être Myrto Gondikas ou Pierre Judet de Lacombe ?
Parce qu'on a un maître commun qui était Jean Bollack, grand helléniste, et qui nous a dit, pour lire, il faut d'abord ne pas comprendre. Il faut s'obliger à ne pas comprendre. Quand on lit une phrase, mais aussi bien de Baudelaire, de Claude Simon, que Eschyle ou Homère, il faut se dire... Je ne sais pas ce que c'est, parce que si on arrive avec l'idée que voilà, c'est de la tragédie, donc ça veut dire ça, ou c'est de l'épopée, donc ça veut dire ça, c'est du roman, donc ça sera comme ça, la marquise sortie à 5 heures, etc., on ne va pas comprendre. Parce que peut-être que dans ces textes-là, s'ils sont bons, s'ils sont forts, quelque chose d'un peu imprévu peut arriver, d'imprévu dans ce que l'auteur a à dire, puis surtout dans son rapport à la langue. Eschyle, donc écrit au 5e siècle... avant Jésus-Christ, on a perdu beaucoup, enfin, on a perdu 98% de la littérature grecque, donc on ne peut pas comparer tout le temps, mais on sait qu'il a transformé la langue grecque, il a transformé la tragédie, il a transformé le rapport à Homère, qui était la tradition, il a transformé la politique, puisque les auteurs, à cette époque, étaient très engagés politiquement. Donc il s'est passé quelque chose de nouveau, et pour saisir ce qui était nouveau, même si c'est très ancien, mieux vaut d'abord être ignorant. Donc, et c'est très dur d'être ignorant. Parce qu'il faut seulement beaucoup de travail quoi, pour se défaire.
Surtout pour toi.
Pour se défaire de tout ce qu'on savait et apprendre. Et là, c'est là que ça devient grandiose et passionnant. Parce qu'on ne reste pas quand même ignorant toute sa vie. Enfin, j'espère.
Mais si je peux me permettre un petit témoignage. Nous travaillions, Pierre Delacombe et moi, sur une autre pièce qui était, je crois, le Prométhée enchaîné. Peu importe, une tragédie grecque. Et on lisait le texte vraiment très très lentement, en allant centimètre par centimètre. Et à un moment, je me dis, bon là, ça devrait aller. Et je le vois, Pierre, qui se prend la tête dans les mains et qui presque s'arrache les cheveux. Et là, je me suis dit, mais c'est réel, le coup de pas comprendre. Et bien entendu, à partir de là, il a lancé 12 hypothèses, il en a massacré 10. Et puis on a commencé à discuter. Mais c'était vraiment une chose qui... C'est comme une pierre de...
Une racine de trop, quoi.
Comme une pierre d'achoppement qui est en même temps un appui pour sauter plus loin. Voilà. Cette non-compréhension.
Et autre chose, c'est les Perses, c'est un jeune metteur en scène qui nous a demandé ça. Alors c'était en 2000, enfin en 1999, on a fait une première rédaction. Olivier Werner, qui depuis fait une carrière et qui est très très bon. Et Donc c'est un choc qui est venu du dehors qui fait qu'on a traduit ça, comme on a traduit ensemble Médée pour Jacques Lassalle pour le Festival d'Avignon. Mais on peut traduire parce qu'on fréquente des artistes. Des artistes qui sont naïfs. Quand ils sont bons, ils sont naïfs. Ils se disent pas une tragédie, c'est ça, je vais vous montrer que voilà, le destin, les dieux, la cité, ou tout ce que vous voulez, ou je vais vous défaire le texte, je vais vous montrer que je suis plus fort que le texte, etc. Ils disent, bah, on sait pas. Donc on va inventer des moyens techniques, matériels, vocaux, musicaux, de gestes, pour arriver à la hauteur de ça. Même chose pour les acteurs. Un acteur, si c'est ce qu'il doit dire, il sera mauvais. Donc il faut qu'il se lance, quoi. Et donc c'est aussi la fréquentation d'artistes nous permet de trouver ce qu'il y a vraiment d'actuel dans Zéchil. C'est du théâtre. Du théâtre, c'est extrêmement exigeant. Bon, voilà.
Alors peut-être, justement pour creuser cette technique, cette méthode, il faut aussi dire ce qu'on croit savoir sur ce qu'est la tragédie. Et je pense que c'est important peut-être de faire petit point, parce que je ne sais pas si tout le monde ici est bien au fait de ce que peut être la tragédie grecque. Il faut espérer que certains non, puisque ça veut dire que ça continue à intéresser même celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc peut-être que c'est souvent ça, la première difficulté, j'imagine, c'est de savoir mettre à distance ce qu'on croit savoir sur quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut croire savoir sur la tragédie, ou même sur les Perses directement d'Eschyle?
Ah ben, je crois. C'est toi qui as écrit « Les tragédies grecques sont-elles tragiques ?»
Bon, d'accord. Non, souvent, on se dit la tragédie, c'est le destin, c'est l'âme humaine dans ses grands mystères. Et on cherche le salut et le héros en se sacrifiant. Il est plus grand que n'importe qui, etc. Bon. Ou bien on dit... Ça, c'était au 19e siècle. Ou bien on dit la tragédie, c'est que c'est la cité qui se représente elle-même, et les citoyens, ils voient que mieux vaut la démocratie que la tyrannie ou la royauté. Donc il faut être brave, courageux, etc., se poser des questions, mais on voit que la démocratie, c'est bien. Bon. Ou bien on dit la tragédie, c'est rien de tout ça, c'est que du jeu, c'est que des situations bizarres pour choquer les gens, créer des émotions, et voilà, c'est que du entertainment. Donc c'est que pour faire créer de la tension. Bon, alors après, il faut vraiment être bête, quoi. On se dit, on sait rien. On a vu un peu de Shakespeare, on se dit, Shakespeare, il y a de la grande philosophie, en même temps, il y a de l'émotion la plus grande, il y a du rire, il y a beaucoup de rire dans la tragédie, il y a de la farce en même temps qu'il y a des choses absolument horribles. C'est pas que la conscience humaine en rapport avec elle-même, ce sont des situations où des gens parlent avec cette chose très simple. Il faut vraiment faut être un peu bête, quoi. Ce qui est très simple dans la tragédie, qu'on n'a plus dans le théâtre moderne, c'est pour ça que ça, c'est étonnant, c'est que d'un côté, il y a le chœur, c'est-à-dire une collectivité qui chante quasiment toujours à l'unisson et en accord. Donc c'est un consensus, une grosse masse, comme ça. C'est comme si le public était sur la scène. Une masse, mais ce n'est pas le public athénien, c'est des femmes jouées par des hommes, ou des esclaves asiatiques, où là, c'est les Perses, qui ne sont pas des esclaves, mais c'est pas des Athéniens. Or, c'était joué par des Grecs. Et face à ce chœur, il y a les personnages qui n'arrêtent pas de se déchirer, qui ne se comprennent jamais entre eux. Et donc, il y a une double tension entre le chœur et les personnages, et les personnages entre eux. Ça, c'est la structure de base minimale de la tragédie. Et quand on voit ça, on voit que c'est une espèce de machine qui permet de reconsidérer, de redire tout ce qui se dit dans la cité et ailleurs. Parce que la tragédie emprunte... On sait que la musique tragique, dans le théâtre, était une musique asiatique. Les costumes étaient des costumes asiatiques, extrêmement chargés. C'était du luxe. Et on a un vase qui représente des acteurs de la fin du 5e siècle. Les décors, on ne sait pas bien. Ça coûtait très cher. Donc c'était du Hollywood. Et les gens étaient en transe. Donc c'est pas les choses un peu rigides qu'on voit néoclassiques, ah là là, le destin, Non, c'est pas ça du tout. C'était la fête, mais la fête qui vire au désastre. Et donc c'est ça que, quand on a ça en tête, c'est ça qui intéresse vraiment les metteurs en scène. Et si on a ça en tête, quand on commence à traduire, on voit toute cette fête des mots qui est derrière, et qu'on essaie de rendre. Non.
Ah bon, donc pas sur la... On va peut-être passer... D'abord, pourquoi les Perses? Pourquoi ça s'appelle les Perses? Et quelle est déjà la particularité des Perses par rapport au reste de la production tragique, puisque c'est quand même un cas un petit peu particulier. Myrto, peut-être
Les Perses, ce sont des Perses français, en effet. On est au Palais Royal. L'armée est partie en Grèce dans une de ces guerres qu'on appelait Médiques, c'est-à-dire Perses contre Grecs. On sait que on va savoir qu'elle a été vaincue. Et à la fin, à la toute fin, Xerxès, le roi, arrive en haillons, défait, se lamente. Le cœur, non seulement se lamente, mais lui fait des reproches très durs. Et là, il y a un renversement très intéressant dans le chant, qui est très très long, et à peu près à la moitié, ça bascule. Et Xerxès reprend, non pas du tout par des arguments, mais il reprend le lead, si on peut dire, du chant, de la lamentation, et ça finit par des ordres qu'il donne au cœur pour sortir. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est d'impliquer un public athénien dans cette aventure complètement autre de l'ennemi récent, pas tout récent, mais récent, et de le faire pleurer parce que l'ennemi a été vaincu, plutôt que de le faire simplement premier degré, se réjouir de la victoire et dire bah, « la démocratie a défait un empire, c'est très bien ». Ce qui est aussi présent dans la thématique, bien sûr, et Pierre vous en parlera, mais voilà, essentiellement, l'émotion, c'est... il peut nous arriver quelque chose comme ça.
Oui, c'est-à-dire que c'est une pièce où, et comme on se disait, on n'imagine pas un auteur contemporain oser faire ça. C'est une pièce où les vainqueurs pleurent de leur victoire. C'est-à-dire que les Athéniens sont devant des Perses, joués par des Grecs, qui sont désastrés, qui pleurent, et qui créent de l'émotion pour eux-mêmes, mais aussi évidemment pour le public, alors que la victoire de Salamine a été la victoire décisive pour la Grèce. Si les Grecs avaient perdu à Salamine face à l'Empire, donc aux millions de soldats qui sont arrivés contre eux avec Xerxès, ils auraient été esclaves, comme étaient les cités grecques soumises en Asie mineure aux Perses, au roi perse. Là, les Grecs ont gagné, bon, surtout par les Athéniens. Eh bien, les Grecs sont amenés, donc les Athéniens qui sont dans le théâtre, mais aussi les Grecs des autres cités, sont amenés à s'émouvoir et à être tristes de leur immense succès. Et ça, c'est un coup de force théâtral gigantesque. C'est vraiment... Le théâtre permet ça. Des Grecs peuvent se déguiser en Perses pour faire pleurer sur la victoire athénienne. Parce que jamais le point de vue athénien n'est représenté dans la pièce. C'est toujours... Tout est vu du point de vue des vaincus. Et ça, on pourra en parler. Mais ces vaincus sont donc reconstruits par Échille, qui lui-même s'est battu à Salamine. Il s'est vraiment battu contre les Perses. Eh bien, c'est reconstruit avec une générosité extrême. C'est-à-dire que Échille, il a fait de la linguistique, il s'intéressait au nom des Perses, il a fait de l'anthropologie, il s'intéressait aux rituels, aux manières de pleurer, tout ça. Il a fait de la politique pour savoir comment et c'est quoi cet empire perse. Il le reconstruit. Et il montre que c'est très différent de la Grèce, mais c'est quand même quelque chose qui ressemble à ce que les Grecs auraient pu faire. Donc c'est la même culture, d'une certaine manière. Et donc c'est un effort, comme on dit, de reconstruction. C'est pas montrer que les Perses sont des crétins, c'est mauvais parce que c'est l'Empire. C'est dire, voilà, et ça on va peut-être en parler, mais justement, ça commence par un rêve. Il y a un rêve au début où la reine perse rêve que d'une lutte entre la Grèce et la Perse, et la Grèce et la Perse sont sœurs. Ce sont des sœurs. Enfin, c'est un mythe qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais je veux dire, donc c'est la même famille, c'est la même racine. Et ça, je trouve que pour maintenant, c'est essentiel. On oublie que l'islam, c'est du Platon. En grande partie. C'est la même culture. L'islam, c'est la culture grecque, avec d'autres éléments, évidemment, originaux. Mais je veux dire, donc, c'est les frères les plus proches qu'on puisse imaginer. Et là, c'est l'ennemi héréditaire, les Perses, depuis la guerre de Troie, de certaine manière. Eh bien, c'est une nation sœur, mais simplement qui fait le contraire de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, il y a un effort d'intelligence géopolitique extraordinaire. Et les Perses ne sont pas des barbares. Alors, on peut employer le mot barbare, nous sommes des barbares, ils se nomment eux-mêmes comme ça, mais ce sont les autres des Grecs, mais les autres de manière très définie par rapport... Enfin, on pourra en reparler, quoi.
Mais on pourrait peut-être écouter le songe d'Atossa.
Bien le tout début,
non? Le tout début. Alors,
oui. Hein, bah, donc, le début, donc, ce sont les chœurs qui rentrent. Alors, quand on a dit moteur en scène, le chœur entre en anapeste. Alors, ça, c'est le rythme, il se marrait parce qu'il oui, rentre en anapeste. Bon, papapam, papapam. Donc, c'est un rythme de marche. Et donc, c'est le chœur qui est. Donc, ce sont les vieillards, enfin, ce sont des vieux qui sont les anciens, donc qui ont le pouvoir de l'Empire. Et ce sont les amis du roi d'avant, de Darios. Le roi qui avait été vaincu à Marathon, mais Marathon, c'était une petite défaite pour les Perses, alors que Salamine, ça va être une énorme défaite. Et ils sont inquiets parce qu'ils n'ont aucune nouvelle de l'armée. Et là, ils évoquent la force de l'armée. Ils évoquent et leur inquiétude et la force de l'armée asiatique.
Ici même, pour les Perses en allée en pays grec, ce qu'on nomme les fidèles sentinelles des riches résidences, chargées d'or, que selon le rang de vénérabilité, le prince lui-même, Xerxès, roi né de Darios, a choisi pour qu'il gouverne le pays. S'agissant du retour, le royal et celui de l'armée couverte d'or, mon cœur se fait maintenant trop mauvais de vin. Il griffe les chairs au fond de moi, car toute la force native de l'Asie s'en est allée. Il aboie le nom d'un jeune homme, et pas de messager, pas de cavalier, qui arrive à la ville des Perses. Eux, laissant les murs de Suse et d'Ectaban, et le mur séculaire de Kissia, ils sont partis, les uns sur les chevaux, d'autres sur les bateaux, et les fantassins, pas à pas, faisant un bloc de guerre. Ce sont Amistrès et Artéphrénès, Mégabatès et Astapès, chefs des Perses, rois sujets du grand roi, qui se lance, gouverneur d'une immense armée, et les archers de mort et les hommes à cheval, vision de déroute, combattants terribles car leurs âmes, leur âme a choisi le courage. Artambarès, ivre du combat à cheval, et Mazitrès et l'archer de mort, le noble Imaios, Pharandakès et Sophtanès, le conducteur de chevaux. À d'autres, le Nil puissant, infiniment nourricier, a ouvert la route. Soussicanès, Pégaston, né d'Égyptos et le souverain de la sainte Memphis, le grand Artamès et celui qui régit la Thèbe mythique, Ariomardos, et les coureurs de marais terrifiants rameurs sur les bateaux en nombre sans fin. Après eux, la masse des Lydiens aux pratiques délicates, ils contrôlent un peuple tout entier né du continent. Mithragatès et Actéus, le capable, roi qui les commande, et Sardès, comblé d'or les lances debout sur des milliers de chars, compagnie à 2 timons et à 3 timons, vision de panique pour les yeux. Les familiers du Ptomlos sacré clament qu'ils vont jeter un joug d'esclave sur la Grèce. Mardon Tarubis bloque à battre les lances et les Mysiens lanceurs de traits. Et Babylone, comblée d'or, envoie en longue traîne une masse métissée, hommes debout sur les bateaux et se fiant à la volonté qui tend les arcs.
Alors, simplement pour dire 2 mots, donc il y a l'angoisse du cœur, et là il y a un catalogue. Alors les noms passent vite comme ça, mais ce sont des noms qui existent, des noms de rois, de chefs perses, mais écrits à la grecque, ce qui fait qu'à chaque fois on peut trouver le sens. Artaphrénès, par exemple, en grec on dit de quelqu'un qui a la poitrine phrène bien articulée et bien fort, on dit artiphrène. Donc le nom perse veut dire quelque chose de grec. Donc là, il fait cette adaptation. Et ce qu'on a, c'est que c'est une force gigantesque. Toute l'Asie, alors ça va avec l'Égypte, ça va jusqu'à l'Afghanistan et l'Inde, contre la Grèce. Et ils sont multiples. Et les Perses, c'est la multiplicité presque joyeuse, grandiose, dorée, etc., fertile, qui s'en va contre la pauvre Grèce. Et c'est une idée, c'est-à-dire que l'Empire, c'est la multiplicité du monde, toute sa diversité qui est rassemblée dans une seule force. Et les Grecs, au contraire, ça va être l'ordre, ça va être dire, voilà, on défend quelque chose qui est identique, qui est toujours le même avec une stratégie. Là, c'est la puissance de la diversité avec toutes les langues. Et en fait, c'est exactement comme ça que Homère, dans l'Iliade, décrit 3. Ce sont des civilisations différentes qui parlent des langues différentes, qui sont richissimes, et donc c'est un déferlement. Là, c'est comme si 3, pour le dire en un mot, c'est comme si 3 débarquaient en Grèce, c'est-à-dire comme si Xerxès faisait, dans l'époque moderne, donc au 5e, à l'époque des Philes, faisait ce que Agamemnon a fait contre 3, mais à l'envers. C'est la guerre de 3 à l'envers qui est en train de se produire.
Sur ce passage.
Alors, oui. D'abord, merci pour votre lecture.
Oui, merci.
Qui m'a bien ouvert les oreilles. Moi, j'aurais une question comme ça. Est-ce que quelqu'un a entendu que le cœur entrait en Anapeste ? Oui ?
Comment ?
Non, mais en entendant la lecture, oui.
Le rythme ?
Oui.
Non, je ne peux pas.
Alors, c'est un peu... Bon, naturellement, c'est une boutade, mais c'est pour peut-être parler un petit peu de la façon dont nous avons abordé ces chants de cœur, qui sont des blocs extrêmement travaillés, dont la musique manque. Bon, ça, c'est irrécupérable, pour nous, en tout cas. Les metteurs en scène font ce qu'ils font, et ils inventent des fois. Comment est-ce qu'on allait essayer de ne pas tout à fait laisser tomber ce qui est la caractéristique de ces parties, c'est-à-dire, notamment, leur rythme. Hein, un chœur de tragédie, c'est... un certain rythme, mais qui à chaque fois est inventé pour l'occasion. Les composantes existent, sont prises à la tradition poétique, hein, lyrique notamment, mais l'assemblage et la signification que l'auteur va donner, à chaque fois, il les invente, il les crée pour l'occasion, et là, c'est le cas. Et Je pense qu'on ne s'est même pas posé la question de traduire en vers réguliers, ce qui, de toute façon, n'aurait pas eu ni sens ni pertinence. Mais ce qui nous a beaucoup retenu, je crois, tu me diras si tu es d'accord, c'est de veiller de très très près à la façon dont se déroule la phrase sur deux plans. Le plan de la syntaxe. On ne s'est pas permis de changer la syntaxe, sauf pour des cas extrêmes où la compréhension aurait été perdue, mais peut-être une fois ou deux, même pas. Et l'ordre des mots et la façon dont, quelquefois, cet ordre est significatif ou bizarre, ou crée des attentes, dont parfois la syntaxe est énigmatique, parce que Eschyle peut être vraiment difficile, pas seulement parce que c'est une langue ancienne et étrangère, mais difficile en soi. Et voilà. Et donc, bon, c'est on fait avec ce qu'on a. Et moi, ce qui m'a étonné, comme parce que je vous mets un petit peu dans les coulisses du travail, nous sommes répartis le texte et puis ensuite on est revenu tellement de fois dessus que chaque partie a été travaillée à égalité par nous deux. Mais à un moment, vers la fin, c'était l'Exodos, on était un peu pressé par le temps. Donc Pierre traduisait à bride abattue. Et donc, j'entendais, parce qu'on lit tout haut, j'entendais, et à un moment, je me suis dit, mais c'est des anapestes. Alors, entendons-nous, des anapestes, c'est-à-dire des rythmes da-da-ton, pas accentués, en français, avec l'accent des mots qui sont en français, comme quand on dit formidable, disons que c'est un anapeste, hein, formidable, voilà, dans ce sens-là, pas plus.
Parce qu'un anapeste, c'est bref, long.
C'est-à-dire pas marqué. Et je ne sais pas comment tu as fait pleuvoir les anapestes à la fin. Et ça, je pense que c'est, c'était ou ton inconscient qui a parlé ou le résultat de ce travail quand même très, 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 très astreignant et qui n'a pas du tout directement porté sur le détail du rythme grec. Mais voilà, de temps en temps, il se passe des choses comme ça un peu magiques et inattendues.
Alors, pour le dire, parce qu'anapeste, on a la chance parce que c'est donc papapam, papapam, ça va avec l'alexandrin. Tintin, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais c'est après, quand c'est les yams, papam, papam, ou ce qu'il y a beaucoup dans cette pièce, c'est les trochés. C'est l'inverse, c'est longue, brève, longue, brève, longue, brève. Bon. Mais là, par exemple, enfin pour dire deux mots, on a traduit le premier vers ici même pour les Perses s'en aller en Grèce. Alors là, ici même pour les Perses s'en aller. Alors ici même, c'est en grec, c'est un pronom démonstratif qui dit les choses ici. Mais en fait, ça veut dire en grec nous. C'est une manière de dire nous. On peut dire pour dire moi, on peut dire cet homme-ci. Ça se dit souvent en grec. Et là, c'est donc ici. Enfin, ces choses-là, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire entendre ? Il fallait faire entendre que le cœur est là, ici même, pour les Perses en aller. Donc c'est la tension entre les Perses qui sont là et les Perses en aller. Et c'est ça qu'on a voulu jouer sur cette espèce de, comme ça, de tension. Et parce qu'il y a des traducteurs qui traduisent la tragédie, aussi Homère, en rythme. Donc ils retrouvent du rythme en français. Alors parfois c'est magnifique, mais je veux dire, on a le danger dans ce cas-là, enfin, on a pensé nous, c'est la répétition. C'est-à-dire que ça ronronne, quoi. Alors que les vers grecs, c'est ça qui est, c'est des aventures fabuleuses, c'est toujours une tension entre le rythme qui est répétitif et la phrase qui va toujours vers un point qu'on n'a pas prévu à l'avance. C'est ça qui est... Donc on a voulu, nous, c'est cette tension-là, et parce que c'est ça qui peut intéresser au théâtre. C'est que les acteurs soient toujours en décalage par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Voilà.
Bon. Alors peut-être prolonger la référence à Homère, puisque c'est vrai que le catalogue, enfin ça a été dit, fait penser au catalogue des vaisseaux, donc du chant 2 de l'Iliade. Alors justement, à la fois au niveau de la langue, mais aussi au niveau des thématiques, hein, quel rapport Eschyle, dans cette pièce en particulier, entretient-il avec la poésie homérique ? Dans quelle mesure c'est une ressource, au fond, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait dans cette pièce, ou dans ces pièces d'ailleurs en général, un petit peu comme un précipité de l'ensemble de la culture grecque du moment, qui est utilisé par les personnages, par le cœur, mobilisé en quelque sorte, et donc dialogue, les différents éléments dialogue. Et donc, bon, évidemment, Homère, tout le monde le sait, c'est quand même une brique un peu fondamentale pour la culture grecque. Donc, justement, que fait Eschyle de ce matériau ? Dans quelle mesure il le retravaille, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau des thèmes ?
Alors, il y a une légende qui dit que Eschyle aurait dit « Homère, c'est un festin dont je n'ai que les miettes ». Donc il vient après, il a pulvérisé ça. Et c'est vrai que quand on lit Eschyle, mais toutes les pièces, il n'y a pas un vers où il n'y a pas de l'Homère. Donc une reprise. Parfois même, parce qu'Homère, c'était difficile. Même Homère, il emploie des mots difficiles, et donc il donne une interprétation, et là, il discutait ça. Homère, c'est vraiment... C'est pas la Bible au sens où, en Grèce, il n'y a pas de texte sacré. Mais c'est le texte total, c'est le conflit mondial, donc des Grecs contre Troie. C'est le tout. C'est tout, c'est l'univers. Et donc, ce que fait Eschyle, c'est de montrer que, en fait, la guerre contre Xerxès, et avant la guerre contre Darius, c'est la répétition d'Homère. C'est-à-dire que le monde revit ça, avec cette immense différence, et ça qui est tout à fait même poignant dans cette pièce, c'est que ce sont seulement les Perses qui revivent la guerre de Troie. Les Perses, ils arrivent avec leur population, avec leur catalogue, leur chef, et avec leur héroïsme, et on a tous ces noms propres de rois qui vont mourir. Donc ça, c'est typiquement épique pour un héros épique ou un héros d'Homère. Mourir sans laisser de nom, c'est la chose la pire. Mourir anonyme, sans nom, c'est ce qui peut arriver de pire. Parce qu'on existe, après la mort, on est strictement rien. C'est une religion sans salut. On n'existe que par le souvenir, ce que l'épopée peut dire de vous. Et si on ne laisse pas le nom, on n'est rien. Là, on a tous les noms perses. On n'a aucun nom grec. Alors qu'on sait que telle action a été accomplie par le grand chef Thémistocle, qui était plutôt socialiste. Il y avait un centriste, Aristide, qui a fait telle action. Donc on sait telle action, là, c'est plutôt Aristide qui était son adversaire. Mais c'est jamais dit, alors que tous les noms perses sont dits. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Eschyle, enfin, c'est comme ça qu'on l'a lu, c'est pas seulement que Homère, ce soit une ressource d'expression, de poésie fantastique pour dire un grand conflit qui était aussi grand que les batailles homériques, mais c'est pour faire réfléchir sur l'époque. Parce que Homère, c'est une époque qui est définitivement finie. Homère, même pour Homère, Homère, le poète, enfin les poètes qui s'appelaient Homère, racontent un monde qui a disparu, le monde des héros. C'est un monde dans lequel il y a encore des demi-dieux, etc. Ce n'est plus notre monde. Ce que Xerxès a voulu faire, c'est refaire contre la Grèce ce que Agamemnon a fait contre Troie. C'est-à-dire faire une guerre de Troie à l'envers et pour avoir une victoire troyenne, une victoire asiatique. Il s'est trompé d'époque. Et donc, il avance comme avancent les forces de Grecs, comme ça, avec les bateaux, etc., d'où ce catalogue. Et il va connaître un destin style homérique, c'est-à-dire ils vont mourir, tous ces gens. Et ça va être la fin de cette race, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est le mythe, parce qu'en réalité, Xerxès régnait toujours à l'époque. Alors que les Grecs, ils se battent de manière, on a envie de dire, moderne, par la ruse, et ils ne rentrent pas dans... Ils ne prennent pas de modèle héroïque. Donc c'est là où on voit que... Enfin, c'était notre interprétation, que Eschyle non seulement reprend Homère pour dire une action grandiose, mais pour dire l'actualité... Alors c'est la seule tragédie connue qui porte sur un... Enfin, donc on est conservé, qui porte sur un événement relativement récent. Bien, il réfléchit sur ce qui nous sépare de l'époque homérique. Et ça qui est vraiment essentiel. C'est vraiment... il fait une analyse de la propre culture grecque, quoi. Et quand on disait que c'est généreux, c'est-à-dire que Xerxès, donc c'est pas une brute, même s'il est allé trop loin, mais je veux dire, il a fait des impiétés parce qu'il a pris Athènes, il a brûlé les temples. Mais ce que les Grecs ont fait à Troie, exactement. D'ailleurs, c'est les mêmes expressions. Donc les Grecs ont été impies à Troie. C'est pour ça que leur retour a été un peu difficile. Quand ils sont revenus en Grèce, ils ont eu des problèmes. Eh bien, Xerxès a fait tout ça. Et Eschyle dit, ben, cette idée de cette force qui se déploie avec ce modèle héroïque, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est nous, les Grecs, on agit par ruse, de manière anonyme, par masse, et donc par intelligence. Et on ne vise pas du tout l'action d'éclat comme Xerxès l'a voulu. Donc, voilà.
Oui, peut-être pour le préciser, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, donc la pièce est représentée en 472 avant Jésus-Christ, et la bataille de Salamine, donc qui est le sujet de la pièce, s'est déroulée en 480. Donc on est vraiment... c'est l'actualité, quoi. C'est vraiment le problème du moment. Dans le même temps, dans la poursuite de cette victoire donc pour les Athéniens, il y a la fabrication... Enfin, les Athéniens sont en train de fabriquer un empire, et ils sont progressivement en train de dominer... la mer Égée, et donc c'est pour ça aussi que fonctionne en miroir la question des Perses, qui eux aussi ont construit un empire, et donc il y a aussi cet élément de de réflexion qui intervient.
Oui, c'est-à-dire que Eschyle avertit les Grecs, ne faites pas ce que Xerxès a fait. À ce moment-là, les Grecs étaient, les Athéniens étaient en train de faire des campagnes côté Perse, justement, là où Xerxès a construit un pont de bateau pour passer d'Asie en Europe. Et Eschyle dit, attention, faire un empire, c'est ça. Je vous montre ce que c'est. Donc 8 ans après la victoire de Salamine, quand même. Donc il le dit, enfin, vous êtes d'accord, Christophe, c'est un avertissement politique. Donc ne faites pas comme Xerxès, parce que c'est ça que ça veut dire. Donc il reconstruit toute l'aventure de Xerxès avec les termes homériques, etc., pour que ce soit intelligible pour les Grecs, en disant, mais voilà, ne soyez pas tentés par cette vision héroïque qui a coulé Xerxès.
Oui, je crois que c'est une première chose qui est intéressante, parce que ça montre aussi ce qu'étaient ces textes ou ces pièces au moment où elles étaient représentées. C'est-à-dire qu'elles étaient représentées non pas pour narrer du mythe, alors c'est encore plus facile de s'en apercevoir puisque c'est les Perses, et que c'est pas une histoire beaucoup plus ancienne qui a été cherchée dans la mythologie, puisque comme vous l'avez dit, c'est la seule pièce qui traite d'un fait d'actualité, et il y a un passage connu dans Hérodote qui nous raconte donc qu'un auteur, Phrynikos, avait représenté un événement assez récent, le sac de Milet, et on lui a reproché, il a été condamné pour avoir fait pleurer les Athéniens. Or, on voit là, ici, que...
La défaite était celle
des Grecs. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce qu'il lui reprochait, c'est de faire pleurer sur soi. Alors que, au fond, pleurer sur les Perses, et donc peut-être commencer à se demander si on ne va pas pleurer sur soi, c'est tout à fait possible. Et c'est là où le décalage apparaît. C'est-à-dire que la seule chose qui, semble-t-il, n'était pas tolérée, c'était de pleurer sur soi-même. Mais pas nécessairement de pleurer pour commencer à réfléchir. On va peut-être écouter le songe d'Atossa pour... Donc Atossa, la mère de Xerxès, et la femme, la veuve d'Arios, donc fait un songe, et c'est un petit peu après le passage qu'on a lu tout à l'heure.
Combien de rêves dans la nuit viennent sans cesse s'unir à moi depuis que mon fils, apprêtant une armée, s'en est allé avec le projet de piller la terre des Ioniens. Mais jamais je n'avais vu encore pareil et aussi clair que celui de la nuit passée. Je vais te dire. J'ai eu l'impression que deux femmes dans de beaux vêtements, l'une parée de robes perses, l'autre de robes doriennes, venaient devant mes yeux, surpassant de loin celle d'aujourd'hui par la stature et d'une beauté sans défaut. C'étaient des sœurs parentes, du même sang. Elles habitaient l'une la Grèce, l'ayant reçue du sort, comme terre ancestrale, et l'autre une terre barbare. À ce que j'ai cru voir, elles montaient une discorde l'une contre l'autre, et mon fils, l'ayant su, cherchait à contenir et à apaiser. Il les attelle aux joues d'un char, en passant à leur cou des sangles. L'une, avec cet équipage, se donnait un aplomb de citadelle, et gardait dans les rênes une boucle facile à commander. Mais l'autre se débattait. À deux mains, elle écartèle le harnais du char, le tirant vers elle rudement, sans mort, et brise le joug par le milieu. Mon enfant tombe. À ses côtés se tient son père, Darios, plein de pitié pour lui. En le voyant, Xerxès déchire les robes qui lui enveloppent le corps. Je parle là de ce que j'ai vu la nuit. Mais une fois levé, après avoir touché mes deux mains, une belle eau vive, je me suis tenu debout face à l'autel avec une main sacrificatrice. Je voulais offrir aux divinités qui éloignent, comme le veut leur rite, une liqueur en sacrifice. Alors, je vois un aigle qui fuyait vers le foyer de Phoebus. Je suis resté figé de frayeur, mes amis, sans voix. Et j'aperçois ensuite un épervier courant de ses deux ailes contre lui. Avec les serres, il lui plumait la tête. L'autre ne faisait que se blottir en offrant son corps. Voilà de quoi faire peur, à moi qui l'ai vu, à vous qui l'entendez. Car, sachez-le, mon enfant, s'il réussit, sera un homme extraordinaire. S'il échoue, il n'a pas de compte à rendre à l'État, et s'il sauve sa vie, il est maître de cette terre comme avant.
Alors on va peut-être partir donc de là, de cette idée donc au fond d'unité, parce que tout à l'heure on a parlé donc on l'a lu même, la description de l'Empire perse avec cette variété, etc. Et voilà que dans le songe d'Atossa, on a l'impression d'une unité sous laquelle ces deux entités pourraient être subsumées. Alors, comment on peut comprendre ou résoudre ça?
C'est toi qui as traduit, là.
Oui, mais c'est toi qui réfléchis. Il y a quand même l'image du joug, n'est-ce pas?
Voilà.
C'est-à-dire que c'est deux forces qui avancent. Voilà.
Oui,
qui
c'est ça. C'est que donc la Grèce et la Perse sont sœurs. Les deux royaumes ont été distribués au hasard, au tirage au sort. Alors, tirage au sort, donc, c'est-à-dire que la Grèce aurait pu être en Asie et l'Asie aurait pu être en Grèce. Le tirage au sort, ça veut dire que ce sont les dieux Donc tirage au sort, c'est pas n'importe quoi. Ce sont, là, les hommes ne peuvent pas décider, ce sont les dieux qui décident. Donc c'est pour ça qu'à Athènes, on élisait les magistrats au tirage au sort. Donc ce sont les dieux qui agissent. Et donc elles sont sœurs, donc c'est vraiment la même race, la même famille. Et elles sont en guerre civile. Enfin, donc et là le roi s'exerçait, ce qui donc qui est sur son char et elles sont au joug. Et donc lui, il fait ce que doit faire un bon roi, c'est-à-dire qu'il rétablit la paix entre les deux membres de sa société. Et évidemment, alors la Perse accepte et la Grèce se rebelle et fait tomber le roi. Alors c'est tout à fait intéressant parce que pour Xerxès, c'est vraiment l'idée d'un monde un, d'un monde unifié. Il doit y avoir un pouvoir impérial qui, au-dessus de la Grèce et de la Perse, qui tient les deux ensemble et qui maintient l'ordre. En fait, ce qu'il fait, il fait ce que doit faire tout bon roi. Mais sauf que, en faisant ça, il prend la place de Zeus, l'instance qui doit régler le conflit entre la Perse et la Grèce. Ce sont les dieux. C'est d'abord Zeus. C'est pas un humain. Lui pense que le roi humain, et c'est le roi du monde. C'est-à-dire qu'il a comme modèle la souveraineté de Zeus sur l'ensemble de l'univers. Et ça, c'est une idée qui, évidemment, pour un grec, ne fait pas de sens. Parce que pour un grec, l'équilibre du monde n'est qu'un équilibre. C'est-à-dire ce sont des rapports de force qui arrivent à une stabilité. Et l'auteur, enfin, je ne sais pas si Christophe Pébard sera d'accord avec ça, l'auteur qui a montré ça le mieux, c'est Thucydide. Thucydide, donc, quand il décrit les luttes entre les Grecs, donc c'est les guerres du Péloponnèse qui vont se commencer à partir de 430, c'est-à-dire 40 ans après, bien, ce sont que des rapports de force entre des villes, des alliances, etc. Donc, les Grecs, ils ont une vision de la société et de la politique comme une vision pragmatique de rapports de force et de solutions, de compromis. Alors que Xerxès a une vision impériale, mais c'est-à-dire qu'il projette l'idée de Zeus sur le monde humain. Et ça, c'est la grande différence. Mais ce sont deux idées qu'on peut dire, elles sont rationnelles, ces idées. Ce sont deux manières de penser la domination. Et l'idée grecque est l'idée la plus paradoxale, c'est-à-dire que pour penser un ordre, il ne faut pas qu'il y ait un garant de l'ordre. L'ordre se fait de lui-même. Et ça, c'est vraiment une vision, on peut dire, très, très complexe. Alors que pour les Perses, l'ordre se fait par l'Empire, c'est-à-dire par une autorité, un esprit humain intelligent qui sait rétablir l'ordre là où il commence à y avoir conflit. Donc c'est deux visions. Mais alors c'est intéressant, les philosophes, ensuite, Platon, etc., auront l'idée perse, c'est-à-dire que c'est un esprit qui règne sur le tout. Et quand il y aura, plus tard, au IVe siècle, il y aura Alexandre et Philippe, ils vont reprendre cette idée-là. Un seul esprit peut régner sur des cultures différentes. Et ça, pour les Perses, pas. Pour les Grecs, pas, pardon. Tout est jeu de force, jeu de différence, de distance, de différenciation, on peut dire. C'est une pensée non purement, en termes modernes, purement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas une substance, une, qui nous tient ensemble. C'est purement des actions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Alors, il y a sans doute aussi une autre idée. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ça fait référence aussi au partage entre les dieux. Hein, puisque Zeus, enfin, c'est Poséidon, Hadès, c'est aussi par tirage au sort qui se sont répartis le monde. Donc cette répartition, elle est faite par tirage au sort, mais elle finit aussi par déterminer un ordre à partir du moment où chacun reste chez lui. Mmh. Et donc du coup, ça pose la question, vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que ça part d'une situation donc, où on dit, bah, après tout, Darius, donc ce sont des Athéniens qui l'écrivent, donc le roi perse a voulu nous gouverner, nous on s'est débattu, donc il n'y a pas de remise en question du fait que les Grecs se soient révoltés, mais ce qui est mis en question derrière, c'est la légitimité des Athéniens, Grecs donc, à venir récupérer un lot qu'ont obtenu les Perses, c'est-à-dire qu'à quel moment ils outrepassent l'ordre, c'est-à-dire que de la même façon que Xerxès va trop loin quand il va chez les Grecs, puisque les Grecs, eh ben, ils ont reçu par le sort la Grèce, donc ils sont chez eux. Et inversement, quand les Athéniens sont en train de grignoter l'espace perse, la question qui se pose est de savoir s'ils ne sont pas en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de venir grignoter. Voilà, parce que le tirage au sort, c'est les dieux, ce sont les dieux, mais ça fait aussi référence à tout le mouvement colonial qui précède, et où on attribuait les lots de terre pour faire une cité par tirage au sort. Et évidemment, votre clos, c'était votre propriété, votre voisin, il n'avait pas le droit de venir récupérer un petit bout de votre lot. Votre lot, c'était ce qui vous fondait. Et même dans beaucoup de cités, il était interdit, c'était inaliénable. Vous ne pouviez pas vous en débarrasser de façon à éviter des concentrations de terres pour que chacun soit à égalité. Donc il y a sans doute aussi déjà une forme d'ébauche à travers, comme si l'ordre du monde devait refléter la démocratie, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens. De la même façon que les citoyens doivent être égaux dans leur rapport à la terre, et ben peut-être que dans le monde aussi, il faut respecter une démocratie. De ce point de vue, l'action de Darius est exagérée, puisqu'il n'a pas à imposer son ordre à la démocratie qui est spontanée.
Oui, ce que tu disais de la pensée grecque, qui est très très vrai pour tout un tas de courants à la fois philosophiques et politiques, politiquement et historiquement, peut-être est plus exact d'une cité démocratique comme Athènes et de types de pensée et de politique d'orientation démocratique, sachant qu'il y en avait d'autres, qui prenaient comme modèle, par exemple...
Ah oui, c'est-à-dire que
c'était pas le seul possible.
À l'intérieur d'Athènes, donc, il y avait les antidémocrates, qui étaient... qui, d'ailleurs, politiquement, pouvaient être alliés aux Perses. Donc, puisque avec... C'est toujours cette idée, est-ce que... la société a besoin d'un principe unificateur identifié et réalisé sous la forme d'un roi. Alors, le roi idéal dans la pièce, c'est pas Xerxès, évidemment, qui est un jeune crétin. C'est plutôt Darius, dont on dit qu'à un moment, il est dit qu'avec son esprit, il pouvait conquérir des pays sans bouger de chez lui. Donc, c'est vraiment l'esprit. En grec, c'est nous. Qui fait qu'il est tellement intelligent qu'il arrive à établir l'ordre partout. Donc ça, c'est un idéal. Donc en Grèce même, il a pu y avoir des gens qui pensaient comme ça. Et on peut dire que la pensée de Platon, d'une certaine manière, est liée à ça. Ou d'autres comme Xénophon, etc., Xénophon, c'est celui qui a quand même fait la théorie de l'Empire d'Alexandre avant qu'Alexandre n'arrive, quoi. Bon. Et donc, Eschyle... est contre ce type de pensée. Il dit non, nous n'existons que du fait de cette frontière entre la Grèce et la Perse et par notre activité. Donc ça, on verra, c'est la manière dont les Grecs ont gagné la bataille de Salamine, qui est la ruse. Alors ça, il faut voir que Athènes, l'idéologie d'Athènes, alors peut-être que ça s'est développé vraiment un peu plus tard, l'idéologie d'Athènes, c'est l'autochtonie. Comme dirait Brassens, nous sommes des imbéciles heureux, nés quelque part. C'est-à-dire que...
Sauf qu'ils n'étaient pas heureux.
Comment ?
Sauf qu'ils n'étaient pas forcément heureux.
Voilà. Nous sommes de la terre même d'Athènes. Donc on vient de nulle part ailleurs. Donc on est bien chez nous. Et c'est ça qui fonde notre liberté, parce que notre enracinement dans la terre fait qu'on ne peut pas nous prendre notre terre. Bon. Et alors, ça, c'est une idéologie qu'on trouve à Thèbes, qu'on trouve à Sparte, etc. Et ce qui s'est passé à Salamine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que les Perses arrivent. Et il y a un oracle d'Apollon qui dit « ce sont des planches qui vont sauver la ville ». Alors il y a des imbéciles qui disent, qui mettent des planches autour du Parthénon en disant « bon voilà, il faut se mettre dans le temple de la déesse et puis avec des planches, pourquoi ? On ne sait pas, ça va me protéger ». Non, des planches vont sauver la ville, c'est-à-dire c'est les bateaux. Donc il faut aller sur mer. Donc pour protéger la terre d'Athènes, il faut quitter la terre d'Athènes et aller sur mer. Tout mettre sur l'eau, l'élément le plus instable. Et on sait que Thémistocle a effectivement fait en sorte que tous les profits d'une mine au sud d'Athènes servent à construire une flotte. Et les Perses arrivent, prennent Athènes, brûlent Athènes. C'est pour ça que le Parthénon, New Look qu'on voit là, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc il a remplacé un Parthénon brûlé sur l'Acropole. Donc les Perses commettent des impiétés, comme les Grecs à Troie, comme on l'a dit, donc brûlent Athènes. Et tout se passe en fait dans la baie devant Athènes, devant Salamine. Et les Grecs gagnent. Mais alors c'est ce coup de génie, si on peut dire, pour sauver la terre athénienne, on l'abandonne. Et on se met sur les bateaux, c'est-à-dire ce qui est le contraire de la terre, dans ce qui est mobile, etc. Et c'est comme ça qu'on va sauver les tombeaux des ancêtres. Donc là, il y a une espèce de renversement. Et on peut lire peut-être le... Non ?
Oui.
Le messager, là, on va vous couper encore, parce que... parce que c'est très, très long. Il y a un messager qui arrive et qui raconte, donc c'est très long. Donc ce sont des épopées, en fait, la bataille de Salamine, enfin, les différents épisodes. Et bon, c'est affreux, par ailleurs, mais bon...
Pour commencer, le mal tout entier, reine, élu, apparut de quelque part un persécuteur ou un mauvais dieu. Un homme, un grec de l'armée des Athéniens, est venu dire ceci à ton fils Xerxès. Quand la nuit noire amènerait les ténèbres, les Grecs ne se maintiendraient pas, mais se ruant sur les bancs, des bateaux, tous, dans tous les sens, sauverait chacun sa vie pour une échappée secrète. Dès qu'il a entendu, sans comprendre la ruse du grec, ni le ressentiment des dieux, devant tous les capitaines, il proclame ces mots. Quand le soleil cesserait d'embraser la terre de ses rayons, quand les ténèbres empliraient l'enclos sacré de l'éther, qu'il dispose le bloc des bateaux en trois rangs pour garder les sorties et les passages où résonne la mer, et d'autres en un cercle autour de l'île d'Ajax. Si les Grecs se dérobaient à la mort mauvaise et trouvaient secrètement sur leur bateau une échappée, la règle était, pour tous, d'y laisser la tête. Ils disaient tout cela l'esprit gonflé d'ardeur, car ils ignoraient l'avenir que feraient les dieux. Eux, sans désordre, l'esprit rompu à l'obéissance, arrangeaient le repas. Et le marin nouait le bois de l'aviron autour des chevilles de bonne nage. Puis, quand dépérit l'éclat du soleil et que survint la mort, chaque chef de rame joignait son bord et chaque titulaire d'armes. Et les postes s'appelaient entrepostes au long du navire, et chacun naviguait comme il avait été posté. Pendant toute la nuit, les chefs des navires firent croiser la troupe navale tout entière. La nuit passait, et d'aucun côté, jamais, l'armée des Grecs ne fit de sortie en secret. Mais quand le jour et ses clairs poulains saisirent toute la terre dans une belle vision de lumière, alors, en premier, bruyamment venue des Grecs, une clameur lança un chant de bel augure et, avec elle, l'éclos des roches insulaires ulula très haut en réponse. L'effroi était chez tous les barbares, déroutés dans leur idée, car les Grecs, à ce moment, ne chantaient pas en l'honneur de la fuite le péant grandiose. Ils se ruaient au combat avec l'audace d'une âme vive. Et de son cri, une trompette embrasait tout là-bas. Tout de suite, en lançant ensemble la rame grondante au commandant, ils ont frappé l'eau abyssale de la mer. Et vivement, ils étaient tous en vue, éclatants. Première, bien en ligne, l'aile droite menait avec ordre. En second, la flotte tout entière jaillissait après elle. Et simultanément, un grand cri se faisait entendre. « Fils des Grecs, en avant, libérez la patrie, libérez enfants et femmes et les maisons des dieux ancestraux et les tombes des anciens. Maintenant, la lutte décide de tout. » Tandis que de notre côté, un grondement en langue perse se levait contre. L'instant n'était plus à l'attente. Tout de suite, un bateau frappa un bateau de son appareil de bronze. Un bateau grec fut au commencement des chocs. Il arrache toute la coiffe d'un bateau phénicien. Puis, on lançait les coques l'une contre l'autre. Et au début, le flot de l'armée perse faisait front. Mais quand la masse des bateaux s'agglutina dans le détroit et qu'ils n'étaient l'un à l'autre d'aucun secours qu'eux-mêmes se frappaient eux-mêmes dans les chocs des bouches de bronze, alors ils fracassaient tout l'appareil de nage et les bateaux grecs, non sans intelligence, en cercle tout autour, donnaient des coups. Les carènes des bateaux se retournaient, la mer était devenue invisible, gorgée de débris et de sang humain. Les bords et les échines de la mer regorgeaient de cadavres. Sur chaque bateau, on ramait pour s'enfuir, confusément, ceux qui comptaient encore l'armée barbare. Eux, comme si c'était des thons ou un filet plein de poissons, avec des bouts de rame et des tronçons d'épave, frappaient, cassaient les dos, et une plainte en même temps que des grands pleurs saisissaient l'étendue de la mer, jusqu'au moment où l'œil noir de la nuit annula tout.
Bon, c'est pas gay. Hein,
bon. C'est vraiment le morceau de bravoure avec la formule, bien sûr, libérer la patrie. Enfin, là, on retrouve donc là, ce qui a fait aussi la célébrité de cette pièce et aussi donc la description de la bataille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre comment fonctionne l'élément maritime. Et c'est là-dessus que je voulais peut-être qu'on discute ou qu'on prolonge ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'opposition entre la terre et la mer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a donc l'élément terrestre qui est important, et qui est important aussi pour les Perses, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les Perses font un pont et donc semblent essayer de passer de la terre à une autre terre, traversent la mer, comme s'ils maîtrisaient la mer, et que donc ce qui est mis en question, c'est la légitimité de ce projet. Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir maîtriser la mer quand on vient de la terre et quand finalement sa puissance trouve son origine dans la terre ?
Oui, on peut simplement dire que c'est vrai que Xerxès, pour passer d'Asie en Europe, il a fait un pont de bateau donc sur les Dardanelles. Et alors on dit qu'il s'est fâché contre Poséidon, ou bien il n'a pas fait de sacrifice à Poséidon, qui est le dieu de la mer, ce qu'il aurait dû faire, ou bien même il a frappé la mer avec un fouet, parce que Poséidon a cassé un premier pont de bateau, mais donc il a transformé la mer en terre. Et le texte grec, là, on n'a pas, est très très beau, il dit « il a changé le rythme de l'eau ». Donc, c'est-à-dire l'eau n'avait plus de forme de maritime, elle avait une forme terrestre. Il a fait passer son armée sur un pont comme ça, gigantesque. Et donc ça, c'est une première démesure, c'est-à-dire non seulement, alors c'est pas simplement qu'il n'a pas respecté l'ordre naturel, mais il n'a pas vu qu'il devait respecter le dieu de la mer. Donc il changeait, il y avait une différence là. Lui, c'est comme c'est la force qui... C'est quoi la force perse? C'est la force qui, justement, c'est l'autochtonie, c'est-à-dire le fait d'être enraciné. C'est les Perses, c'est pas les Grecs dans la pièce. Eux, ils viennent du sol de l'Asie et c'est l'expansion de la terre qui, comme ça, qui envahit tout et qui devient comme une mer, mais comme une mer qui ne reconnaît pas ce qu'est vraiment la mer. Donc c'est comme si c'était une terre qui envahissait tout et qui se perd dans l'indifférence, d'une certaine manière, dans l'absence d'intelligence, des différences entre les domaines et entre les dieux. Et ça, c'est la conséquence d'un esprit qui veut tout dominer à partir d'un principe unique, donc qui est une pensée grecque aussi, mais qui, dans le cadre politique, là, donc échoue. Alors que les Grecs, eux, ils raisonnent en termes de différence, la terre, l'eau, le jour, la nuit, etc. Bon. Oui, Franck.
Ça fait aussi, je crois, ça met en question la nature des guerres et la légitimité des deux projets, c'est-à-dire que le libérer la patrie. Il désigne une guerre possible, c'est-à-dire la guerre pour la patrie. Et c'est des thématiques qu'on retrouvera plus tard, en particulier chez Euripide, dans les Troyennes, où cette question va être directement exposée. C'est-à-dire qu'il y a une bonne guerre et il y a une mauvaise guerre. Sauver sa patrie ou se battre pour sa patrie, ce n'est pas la même chose que de mener une guerre de conquête. Et donc il est probable que le libérer la patrie, c'est aussi une manière d'exposer ou de rappeler la légitimité du projet des Athéniens et des Grecs qui, au fond, se battent pour récupérer leur patrie et non pas pour s'emparer de la terre des autres. Et je crois que c'est sans doute le signe aussi d'un moment où ils sont en train de construire ce rapport à la terre et cette culture politique, on l'a dit tout à l'heure sur l'autochtonie, c'est-à-dire le moment où ils vont progressivement s'afficher comme étant... descendants de leur propre terre. Et donc,
Là, peut-être. non, parce que, effectivement, est-ce que Eschyle croit ça? Moi, je dirais que sans doute pas. C'est-à-dire que les Athéniens, c'est vrai qu'il y a eu cette idée qui est l'idée qui revient. Alors là, on est en plein dans l'actualité, quoi. Les racines, la culture occidentale, l'identité, etc. Nous, on veut nous transformer en autochtones. Bon, c'est un peu ça, il y a des courants politiques très, très puissants. Bon. On peut être pour, on peut être contre, enfin, je crois que... Mais voilà, on veut nous enraciner. Alors, il y a eu ça même chez les démocrates. Démosthène dit « on est libre parce qu'on vient de la terre athénienne bon. ». Alors je crois qu'Eschyle, lui, à mon avis, c'est un autre courant de pensée. Je veux dire, Eschyle, il est beaucoup plus du côté de ce qui va être la sophistique, etc., de dire « mais tout est action, tout est langage, tout est rapport de force ». Et donc on n'est jamais enraciné. Les dieux peuvent venir à tout moment pour tout changer. Ça, dans l'Orestie, on le voit, etc. Donc la tragédie où les dieux sont si présents, c'est pas que comme si par rapport à une pensée moderne où l'homme pourrait croire qu'il peut agir librement, etc. Ah ben non, il y a le destin, il y a les démons, il y a tout ce qui est derrière et tout ce qui est mystérieux. Et Eschyle dit non, c'est pas comme ça. Et je crois que ni Sophocle ni Euripide... Le théâtre, qu'est-ce que fait le théâtre? Le théâtre montre tout. Même les démons secrets, les démons de la vengeance, le démon du destin peuvent devenir des personnages de théâtre. Et donc, il montre que tout est discussion ou rapport de force ou action. Ça me paraît être, même les dieux, sont sur scène. Ils le sont pas dans les Perses, sauf qu'il y a un mort qui arrive, Darios, qui vient. Alors, à la fin, Darios dit « Mais c'est terrible, vous allez, il y aura encore une autre défaite, encore pire, là, qui va se passer à Platée, donc, là où il y aura le, comme on a traduit, il y aura une liqueur de gorge coupée sur la terre, enfin, bon, etc. C'est tout à fait gai, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un massacre épouvantable. Et bon, et donc, lui qui a la sagesse parce qu'il vient des enfers, il peut prédire, mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ben, vous savez, vous devez jouir du moment parce que quand on est mort, on n'a plus rien. Alors, les pauvres, le cœur qui a entendu les choses les pires, dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, etc. Donc, même le destin sous la forme de Darios peut venir sur scène et on voit, c'est un personnage. Donc, c'est comme si Eschyle disait ne croyez pas que vous soyez englué dans des malédictions, dans des choses qui vous laissent aucune illusion. Ne croyez pas non plus que vous êtes complètement libre. Regardez l'histoire telle qu'elle s'est faite. Le théâtre permet ça. Donc même les dieux les plus cruels, les plus forts peuvent devenir des personnages de théâtre et eux-mêmes doivent argumenter. Ça, c'est la machine très forte du théâtre. On aura ça chez Euripide. où la mort doit argumenter. Ah ben, je voudrais venir chercher un tel. Ouais, mais attends. Donc le théâtre, il y a un côté un peu farcesque, même dans le théâtre, pas dans les personnes, qui n'est pas très drôle, mais dans le théâtre, tous les principes qui font la vie humaine deviennent des personnages sur scène. Ils doivent rendre des comptes. Vous voyez, et là même, Darios doit rendre des comptes. Ça, c'est quand même une chose... Et on le voit hésiter, etc. Ça, c'est une chose extraordinaire. C'est un sens que... C'est une vraie expérience ouverte, le théâtre. Et la tragédie, c'est pas comme on dit souvent, voilà, c'est le destin, l'histoire qui vous tombe dessus, le mythe qui fait que vous êtes victime de, avant même d'avoir commencé à exister, etc. Même Oedipe, il peut se révolter. Et c'est quand même... Bon, Xerxès, pas tellement. Mais bon, ça fait...
bon. On va peut-être revenir justement sur Darios, parce que c'est un personnage donc important. Donc là, la catastrophe a eu lieu, elle est décrite. Peut-être faut-il rappeler que ces grandes batailles, avec cette mortalité importante, c'est relativement neuf dans l'histoire du monde grec. Et donc, c'est très marquant encore pour eux. Et que la description qui vous a été lue tout à l'heure est une description réaliste. C'est-à-dire, effectivement, la mer est couverte de cadavres, de morts, lorsque, en plus, les Perses abandonnent leurs morts. Donc, ils les laissent sur place. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement impressionnant.
Mais c'est Verdun, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est Verdun.
Donc il faut... Ce qui veut dire que l'émotion, on peut la supposer pour les Athéniens. C'est indépendamment du fait que c'est vu depuis les Perses, il est évident que là, cette description est la description de ce qu'ils ont vu. Et ce qui les a marqués, sans doute, de manière très, très forte. On le sait parce qu'on a d'autres descriptions où on a ces descriptions de cadavres, cette odeur qui reste pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Donc là, la défaite est donc consommée et survient donc le fantôme d'Arios, donc le mari mort d'Atossa, dont on a entendu le songe tout à l'heure, et le père de Xerxès, donc qui est le roi perse qui combat à Salamine. Alors justement, que vient faire ce fantôme dans cette histoire? Comment on peut comprendre ce recours à ce personnage donc fantomatique?
Comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, les membres du chœur sont ses amis et ses conseillers, ou ses ex-amis et ex-conseillers, puisqu'il est mort. Et puis, il fonctionne comme un pôle d'opposition très fort à son fils, qui est le roi actuel, Xerxès. Et en même temps, puisqu'il vient, comme disait Pierre, du domaine des morts, il a tout un savoir, non seulement sur l'avenir avec les prédictions sinistres qu'il fait, mais aussi sur le passé, parce que les deux sont liés. Peut-être tu pourrais en dire un peu plus.
Oh, non, mais c'est que il dit... Darios, donc c'est pas un dieu, mais c'est un esprit, si on peut dire, et qui comprend, parce qu'il ne sait pas que son fils est parti contre la Grèce et a été battu. Donc on lui dit tout ça, il dit « Ah oui, maintenant je comprends, il y a des oracles du passé qui nous ont dit qu'il y aurait cette défaite, je ne pensais pas que ça arriverait si vite ». Et il peut donc prédire, comme dit Myrto, il prédit le passé et l'avenir. Un devin doit toujours prédire ce qui a été et ce qui sera, et dire ce qui est, aussi interpréter le présent. Et ce qui est passionnant, c'est que... Alors là, Eschyle a étudié l'histoire, parce qu'on peut comparer ce que Eschyle dit de l'histoire de l'Empire perse à des inscriptions que l'on a en Perse maintenant, parce que ça, c'était une civilisation moderne qui avait ses propres archives, etc. Donc, et on voit Darios reconstruit l'histoire de l'Empire perse comme l'histoire d'une chute nécessaire. Ce qui n'est pas vrai, en plus, parce qu'à l'époque d'Eschyle, Xerxès est toujours roi à Suse, et ça va très bien pour lui. Bon, il va se faire assassiner un peu après, mais ça, c'est autre chose. Donc, donc là, on a... Donc Eschyle fait une espèce de théorie politique, quoi. Il reconstruit la nécessité de la chute de l'Empire. Alors, pour dire deux mots, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on voit Darios, donc, qui avait l'esprit conquérant, il pouvait conquérir sans bouger même de son palais, par son intelligence. Mais il est allé lui-même trop loin, déjà. Il est allé en Grèce, il a été battu à Marathon, qui était une défaite assez petite, quand même, mais je veux dire, par rapport en masse, quoi, par rapport à ce qui se passe à Salamine. Mais là, la défaite de Marathon veut dire là est la frontière. L'Empire perse ne doit pas aller en Grèce. Donc ça, c'est la frontière que les dieux, finalement, ont fixée. C'est ça, le tirage au sort se confirme par là. Mais Darios est grand parce qu'il a accru l'Empire jusqu'à cette frontière. Le fils, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut végéter dans les frontières établies par son père, mais du coup, il n'est plus comme son père. Et c'est pour ça que les conseillers de Xerxès lui disent « Fais comme ton père, vas-y ». Et donc, comme l'Empire perse, c'est quoi? C'est une force qui part du centre, Suse, la capitale, et qui annexe les différents pays, mais tout en respectant leur langue, etc. Donc, il construit cet énorme ensemble composite. Eh bien, Xerxès se dit, je peux faire la même chose avec la Grèce. Il n'y a pas de raison, puisque l'Empire, c'est une force qui se déploie. Eh bien, non. Donc là, et du coup, l'Empire est condamné à l'échec. C'est ça qui est... que l'idée même d'Empire est une idée qui se contredit. Alors que l'idée du régime technique, on peut dire, démocratique athénienne, est en danger, toujours, mais précisément, elle sait se contrôler. Puisque pour un Athénien, le critère de vérité d'une action politique, c'est le succès. C'est ça qui est... C'est pas l'idée qu'il faut dominer le monde. Là, c'est tout à fait... Bon. Donc c'est vraiment deux idées politiques qui sont... Et Darios, d'une certaine manière, représente ça. Alors on dit souvent l'interprétation qu'on peut lire dans pas mal de livres. Darios, c'est la sagesse, alors que hubris, c'est la démesure. Hubris, comme on dit, la violence excessive. Bon, il y a de ça, mais c'est un peu court quand même. C'est-à-dire on manque tout ce qui est l'analyse politique que fait Eschyle, le rapport au mythe et à Homère, et surtout le fait que le théâtre, c'est-à-dire de mettre les gens dans des situations d'incompréhension et d'interprétation où ils essayent de comprendre ce qui leur arrive et donc ils n'y arrivent pas vraiment. Mais c'est une leçon de pensée aussi que nous donnent les Perses. C'est pas seulement une leçon de morale, enfin, ça je pense pas.
Non. Oui, ce qui montre la nécessité de lire ces pièces en entier. Je le dis, s'il y a des historiens et des historiennes dans la salle, parce que traditionnellement, on les coupe. On lit un petit passage, en particulier la description de la bataille de Salamine, parce que tout le reste n'est pas censé nous intéresser. Or, précisément, tout le reste est indispensable pour comprendre les passages que nous croyons isolés, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est l'ensemble du texte qui est réflexif. Donc, il n'y a pas quelque part une vérité qui arriverait et qui viendrait, nous éviter la lecture du texte. C'est le texte lui-même qui est une proposition réflexive et qui ouvre des questions, pose des questions, constitue le problème au lieu de le résoudre. Et c'est vrai que ça, c'est très important, je crois, pour dire aussi l'intérêt de ces textes. C'est que ce sont des textes qui ne sont jamais fermés, qui nous ouvrent sur des réflexions qui suscitent une forme de mise en question des évidences. Et je crois que ça, c'est extrêmement important pour comprendre comment fonctionnent ces pièces et en quoi elles sont démocratiques. Elles sont démocratiques précisément parce qu'elles sont autant d'outils pour comprendre le présent. Et le comprendre, ce n'est pas avoir des certitudes dessus, c'est être capable de s'interroger sur lui. Parce que c'est après, ensemble, à l'Assemblée, que l'on pourra débattre si, finalement, il faut faire l'Empire ou non. Mais on le fera à partir d'une culture commune qui est une culture réflexive, problématisée, qui n'est pas une culture de certitude. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner pour comprendre l'intérêt de ces textes. C'est une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse positive. Au fond, on aurait juste à avoir un stock de conseils. C'est une sagesse dont le maître mot est la réflexion sur soi en permanence. Voilà, c'est de se dire qu'on n'est jamais sûr de savoir qui on est. On n'est jamais sûr de maîtriser un événement. Et ces textes sont des propositions d'interprétation, mais d'interprétation au pluriel, jamais une seule. Peut-être qu'on peut citer par rapport à Darios, pour voir aussi comment ça fonctionne, les vers 824-826, donc je cite évidemment votre traduction, « Rappelez-vous Athènes et la Grèce, afin que nul, se pensant plus haut que ce que donne la divinité présente, ne disperse, par désir d'autre chose, le flot d'un grand bonheur. » Et donc on voit bien comment ce texte fonctionne. Et dans le rappelez-vous Athènes et la Grèce, il y a aussi pour le spectateur athénien, rappelez-vous les Perses, puisque c'est ça qui le spectateur athénien. C'est attention, ça, ne devenons pas les Perses. Restons athéniens. Et c'est cette réflexion. Et j'insiste sur le fait que c'est une réflexion politique du moment. C'est leur problème à l'Assemblée chaque mois de savoir s'ils continuent la guerre, c'est-à-dire s'ils vont au-delà de la défense contre les Perses, est-ce qu'ils rentrent dans une logique de conquête. Et c'est là où la tension entre Darius et Xerxès fonctionne, puisque Darius, il peut se prévaloir d'une accumulation, il a rendu son empire riche, alors que Xerxès, il est présenté du côté de la dilapidation. Enfin, c'est exactement comme ça, il a dilapidé, évacué la richesse que son père a accumulée. Il n'a pas su faire quelque chose de l'accumulation.
Oui. Non, mais comme Antigone, par exemple, la pièce de Sophocle, là, donc, où il y a Créon, Antigone. On ne peut pas, quand on lit la pièce, dire qu'Antigone a complètement raison. Bon, c'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est la Jeanne d'Arc de la liberté, bon, contre Créon, qui serait l'abruti, quoi. Donc non, ils ont raison tous les deux, et d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais, la pièce était faite pour qu'après la pièce, on discute. C'est vraiment fait pour ça. Et là, de même, les Perses, c'est fait pour créer... Ça crée un traumatisme. Il faut voir que les gens athéniens, alors nous, c'est plus le cas, quand ils entendaient ou voyaient les Perses avec la musique qu'on a perdue, les flûtes, les tambours, enfin, une chose... Il faut voir que c'était... Enfin, si on veut avoir une idée concrètement de ce qu'était la tragédie grecque, il faut voir les vidéos qu'on a du théâtre populaire indien, avec les grands... tout ce qu'Ariane Mouchkine a repris dans son dernier spectacle, Une chambre en Inde, ce théâtre populaire avec des acteurs extrêmement grimés, des costumes invraisemblables, des cymbales, tout ça, des choses très, 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 très mouvementées. C'était ça. C'était une fête. Donc, mais qui mettait comme un concert rock, quoi. Ça mettait les gens en transe. Et ça, Platon dit, mais ça énerve Platon. Aristote dit, mais non, il avait raison, c'est bien fait, quoi. Bon. Et je veux dire, c'était un grand délire, mais un délire où, justement, la raison était sollicitée, puisque le délire fait qu'on est mis dans des expériences qu'on n'avait pas prévues. Là, on est mis dans le désespoir des Perses. Bon, dans l'Orestie, on peut être mis dans des questions de sang, de vengeance, qui pour un grec, bon, c'est plus du tout sa culture. Mais le théâtre transporte. Il fait vivre comme étant des choses premières, très très viscérales, même des situations qu'on ne connaît pas. Aucun grec ne vit l'histoire d'Oedipe. Enfin, si on peut coucher avec sa mère ou tuer son père, bon, ça peut-être ça se fait tout le temps, mais je veux dire, c'était le faire vraiment pas. Et donc, on arrive à être ému de choses qui sont totalement étrangères à ça. La tragédie, c'est ça, c'est un déplacement, c'est un déguisement. C'est pour ça que Platon, ça l'énervait. Et c'est oriental, et dans la musique, dans les costumes, etc. C'est non grec, même si c'est joué par des Grecs. Et quand un chœur chante, par exemple, dans les Choéphores d'Eschyle, il dit « on va prendre le grand rythme asiatique, etc. » Donc c'est fait, c'est une musique de déplacement, quoi. C'est comme nous quand on entend le rock'n'roll qui est anglais. Oui, bon, enfin, si on peut dire. Donc c'est quelque chose c'est un transfert, quoi. Et du coup on est déstabilisé en même temps comme sont des formes extrêmement fixes. La tragédie, bon, les Perses c'est la première pièce qu'on connaisse. Mais il y en a eu bien avant. Là, quand Eschyle a fait les Perses, c'était un vieux. Il avait 50 ans. Quoi. Pour un grec, c'est vieux. Quoi. Et donc, c'est un œuvre de maturité. Et toutes les pièces qu'il a faites avant et les auteurs d'avant, on ne les a pas. Donc, mais ce qui est frappant, c'est qu'entre les Perses et Euripide, qui est les dernières pièces qu'on a, ça ne bouge pas. C'est la même forme, quasiment. Simplement, on a rajouté un acteur où le chœur est passé de 12 à 15. Mais c'est exactement la même forme. C'est très rigide. Et donc, les gens, quand ils rentrent dans ce délire qu'on leur propose, ils ont des repères. Ils savent, ah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est une forme à la fois très rigide qui permet l'innovation. Et là, les Perses, les Grecs ont dû être surpris quand ils ont vu les Perses. Ça, certainement, quoi. Oui.
Et puis, c'est peut-être important de souligner que, manifestement, pour les Athéniens, l'émotion ne s'oppose pas à la réflexion.
Non, c'est le contraire.
Et donc, ce sont nos schémas à nous qui nous amènent à dire ben, c'est soit de l'émotion, soit de la réflexion, et que, comme s'il y avait une tension entre les deux, alors qu'au contraire, l'émotion fait partie de la mise en réflexion.
Ouais. On peut lire la fin, peut-être, justement, puis après, pour que le public puisse aussi... Alors là, c'est la fin, c'est donc Xerxès rentre. Alors c'est tout à fait intéressant, mais il y a Darios qui dit à la reine, fais attention, il ne faut pas qu'il rentre mal habillé, donc il faut lui chercher des beaux vêtements, parce que quand même c'est affreux, il faut qu'il ait sa dignité de roi. Et manque de chance, il arrive en guenille, quoi. Donc tous ses vêtements sont déchirés, parce que depuis la Grèce, il est passé, donc il a dû remonter par la Macédoine, etc. Très très long voyage qui a été affreux. Donc il arrive complètement défait. Quoi.
À moi. Désastré, j'atteins ce destin de glace le plus irrépérable. Si férocement le démon a posé le pied sur la race des Perses. Pauvre, que subirais-je? Car la force de mes membres se défait quand je vois ici les anciens de la ville. Zeus, qu'un destin de mort avec les hommes en allée ne m'a-t-il recouvert moi aussi?
Le cœur.
Mort, mort, ô roi, sur la bonne armée, sur la grande dignité de la loi perse et sur la splendeur de guerrier que le démon a maintenant tranché. Et la terre sanglote sur les jeunes de cette terre, tués par Xerxès, le ravitailleur d'Hadès chez les Perses. Car une foule d'hommes, fleurs du pays, archers de mort, myriades, très touffus de guerriers, sont entièrement détruits. Sanglots, sanglots sur la noble force des armes. Et la terre d'Asie, ô roi de cette terre, durement, durement s'est affaissée sur le genou. Xerxès. Je suis là, oi, oi, en sanglots. Misérable, j'ai été une nuisance pour la race et pour la terre des ancêtres. Le cœur. En hommage à ton retour, le cri qui prononce le mal, la voix qui s'attarde au mal du pleureur des myriadines.
Myriadines.
Sera ma dédicace, une vocifération pleine de larmes. Xerxès. Lancer l'inflexion lugubre, toute déplorante, la clameur difficile, car le démon tournant sur lui-même, cette fois m'attaque. Le cœur. Je la lancerai, toute déplorante, en l'honneur des misères quand le peuple souffre et quand la mer fracasse, d'une cité, d'une race en deuil. Je ferai éclater un pleur de pure larme. Xerxès. Ionien, il a pris, Ionien, barricadé de navires, force pour l'ennemi. Arès a déboisé la plaine, sombre de nuit et la côte maudite. Le cœur. Crie, oi, 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 et cherche à tout savoir. Où est la foule manquante des nôtres? Où sont tes assistants? Il y avait Pharandakès, Soussas, Pélagone, Dotamès et Agabatès, Psamis et Soussicanès, qui laissa Ectaban. Xerxès, je les abandonnerai à la mort, jetés sur leur bateau de tir. Ils se défont sur le rivage de Salamine, frappent la rive dure. Le cœur. Oi, 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 Outerès, Pharnoukos et Ariomardos le capable. Ou le seigneur Saulkès ou Laios de grande ascendance, Memphis, Tarubis et Massistras, Artambarès et Aetaïkmas. Je te pose aussi ces questions. Xerxès. À moi, à moi. Tous, ils ont vu la mythique Athènes la détester et un seul frappement d'aviron. Et les mets pauvres, convulsifs sur la grève. Le cœur. Et là-bas aussi, le dénombreur des milliers et milliers de Perses, ton œil fidèle surtout, Alpistos, fils de Batnokos, fils de Sésamès, fils de Mégabatès, et Partos et le grand Oïbarès, tu les as laissés, oh les ravagés. Sur les Perses magnifiques, tu as dit un mal qui va plus avant que le mal.
Bon, merci. Merci, c'est bon. Alors normalement, le chœur, c'est chanter. Ça, on ne pouvait pas, mais on n'a pas la musique, donc Lorelai ne pouvait pas. Et au départ, Xerxès parle en anapeste. Mais il se met à chanter lui-même. Donc il rentre dans le chœur. Bon, ça, c'est...
T'as des questions ou...
Non, là, je crois que vous avez vu, donc il y a des cris. Alors... il y a donc... oh, 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 eh, eh, oi, oi...
Alors, ça, dans d'autres chœurs, on a OA.
Il y a OA. Alors, parfois on a traduit, parfois on n'a pas traduit. Parce qu'en français, on a. Ça, c'est un grand, grand problème. En italien, c'est, ils ont beaucoup plus de cris, quoi. Ils ont cri mieux en italien que parce que, à cause de l'opéra, quoi. Et nous, on a O, A, E, quoi. C'est pas terrible. Et les cris sont toujours des. Ont un sens. Quand on dit E, ça veut dire non, je veux pas. Parfois, il y a des cris. Alors, des cris qu'on a traduits. Par exemple, « Yo moi moi », qui est le cri tragique de lamentation. On a dit « Tristesse, tristesse sur moi ». Parce que... ça, c'est un choix. Donc ça dépend aussi des acteurs. Crier... Si on traduit en français les cris, bon, ça, c'est un peu plat, quoi. Hélas, hélas, bon, ça va. Si on met en grec...
C'est difficile de dire « Berk ». En fait, on a beaucoup de cris, mais c'est d'un registre qui est plutôt bouffon ou de la BD. Ou, enfin, c'est pas la même culture, vraiment, oui. Comme tu dis.
Arg, quand on est quick, quoi. Mais je veux dire, par exemple, Berk, c'est en grec, c'est Péo. Ah, je veux pas de ça, quelle horreur, Péo.
Mais c'est tragique.
Mais c'est tragique, alors Berk, c'est pas vraiment tragique. Donc là, on mettra plutôt horreur ou dégoût. Bon, et une fois dans Cassandre... Donc il y avait Ototototoi, Popoi, un grand cri. Ototototoi, c'est un cri rituel, donc de mort. Alors donc moi, j'avais traduit la mort, la mort. Puis alors ma femme qui est là a dit, oui, si tu dis mort là, ça ne marche pas. Donc il faut faire attention. Mais donc c'est un choix. Et oh, oh, et dans les phrases, là, on a traduit les cris qui, quand ils sont hors vers, comme ça, bon, comme une phrase. Mais à l'intérieur d'une phrase, ça casse. Justement, la phrase. Et ça, c'est pour ça qu'on a voulu le garder, quoi. Enfin, Myrto, peut-être tu peux dire plus. Et puis, alors, il y a le mot qu'on a traduit. Alors, désastré. Donc, on était très contents parce que, en grec, c'est quoi? 910.
Du sténos.
Du sténos, c'est ça, oui. 910.
908.
Voilà. Donc... voilà. Oui, du sténos. Alors, par exemple... à moi, c'est en grec, c'est io. Io, c'est le cri de base. Io, brève langue. On ne veut pas dire Io. Enfin, personne ne leur dit à moi. Donc on a respecté le yamb comme ça. Bon. Et après, désastré. Alors, on est très content. On s'est dit, on a inventé désastré. Et on est allé voir, parce qu'on a pas mal lu de théâtre du XVIe siècle, c'est-à-dire avant la grande purification de la langue française, donc théâtre du XVIe siècle en France, il y avait désastré. Quoi. Donc c'est pas... Bon, après tout, c'est... Pourquoi pas? Alors, il y a peut-être... On peut la critique qu'on pourrait faire, moi, je trouve que c'est bien désastré, pour dire du sténos. En français, désastré, ça veut dire celui dont les astres annoncent un mauvais sort. Hein, donc c'est ça le... Mais la critique qu'on peut faire, c'est que désastré, c'est un mot marqué en français parce que ça date du XVIe siècle, alors que du sténos, en grec, c'est un mot absolument banal pour dire malheureux. Bon, donc...
En tout cas, dans le registre tragique.
Dans le registre tragique, mais c'est la langue tragique. Alors, donc, on a voulu que l'entrée de Xerxès se fasse sur un mot très haut, puisqu'on est dans le très grand lyrisme, quand même. Donc, c'est... Voilà, c'est on bricole, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de certitude. Et ce qu'il fallait, c'est que s'écrit, parce que c'est très long, hein, cet exodus. Ça peut devenir monotone, surtout si on n'a pas la musique, parce que la musique devait varier énormément. On a voulu l'expression du mal soit une action scénique, c'est-à-dire soit une action dramaturgique. C'est comme si les Xerxès disent oh là là, c'est affreux tout ce que j'ai fait. Et puis le cœur lui dit, mais tu es la tragédie des Perses. Bon, ça, on a repris ça. Tu es c'est qui va trouver les mots les plus justes, qui va s'approprier les mots les plus justes pour dire le désastre. Et d'abord, c'est le cœur. Le Xerxès arrive en disant, ouais, bon, c'est pas terrible tout ça. Et donc, le cœur l'attaque, mais simplement, il s'empare du langage. Et ce que tu disais, Myrto, c'est que petit à petit, ça va se renverser. C'est Xerxès qui va s'emparer du langage tragique pour dire le malheur. Et donc, il recompose son pouvoir avec une espèce de cortège funèbre, mais sans cadavre, sans rien. Donc, c'est complètement vide, quoi. Mais il y a un court tour de force, un coup de force de Xerxès. Enfin, bon, là, tu peux, puisque c'est toi qui as traduit ça.
Mais qui est sur... Non.
C'est moi ?
Non, c'est toi. Non, c'est nous, quand même. mais qui est sur le registre de la scène, bien entendu.
Qui est le ?
Sur le registre de la scène, le coup de force.
Ah oui, c'est purement scénique. Mais ça, c'est vraiment... ça, c'est une loi du théâtre. Et souvent, quand on monte, parce qu'on monte souvent les tragédies grecques de manière mystique. C'est-à-dire, on veut que la tragédie soit la représentation de grands désastres qui ont eu lieu hors de la scène, quoi. Alors que non, la tragédie, elle a une règle, si on peut dire, c'est l'immanence, c'est-à-dire tout se passe sur scène. Et là, ce qui est très très beau dans les Perses, par exemple, c'est que quand le cœur ou les personnages n'emploient pas le même rythme selon qu'ils parlent. Ici, maintenant, dans l'interaction, dans la lutte entre eux ou dans le présent, là, Eschyle emploie un maître qui va être quasiment oublié après, c'est-à-dire c'est un maître, comme on dit, trochaïque, où c'est long, bref. Trochaïque, c'est-à-dire que c'est comme si on courait. Alors que le rythme de base de la tragédie, c'est le iambe, c'est l'inverse, c'est brève, longue. Et Aristote nous dit que c'est le rythme qui correspond le plus au parler athénien, le rythme naturel dans lequel on parle. Le trochet, non, c'est complètement déhanché, quoi. Mais quand les personnages parlent entre eux de manière vive, comme ça, tendue, ils parlent dans cette pièce plutôt avec les trochets. Quand on parle de choses lointaines, un rêve, ou quand on parle des récits de la bataille, on parle en iambe. Donc on change, les mêmes personnages changent de rythme. Et ça, c'est tout à fait fabuleux, parce que ça veut dire que à l'oreille, tout de suite, on entend que, voilà, est-ce que c'est le... On parle du présent ? Ou est-ce qu'on ramène un monde lointain ? Et ça, pour un metteur en scène, c'est essentiel. Il doit partir de là pour faire sa mise en scène. Et je veux dire qu'Olivier Werner, il avait réussi étonnamment bien, avec très peu de moyens, parce que c'était un jeune metteur en scène, mais il avait fait comprendre la différence entre le monde présent où il y a des échanges et le monde lointain où arrivent des êtres bizarres, le Darius, etc., la reine. Ça, c'est des choses très, très concrètes, quoi.
Sachant que c'est quelqu'un, Olivier Werner, qui, depuis aussi, travaille très volontiers et beaucoup sur du théâtre extrêmement contemporain.
Ah oui, voilà. Oui, c'est pas...
C'est pas du tout une volonté muséale quand il nous a demandé de...
Non. D'ailleurs, il nous a dit au départ, les Perses, je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est voir ce que ça nous fait. Ben non, on n'était pas très contents. Et en fait, on a passé des semaines et des semaines avec lui à lire dans le détail. Il a fait vraiment, il s'est intéressé comme philologue, comme s'il était helléniste, quoi. Très précis. Du coup, ça donnait un spectacle, moi, je trouve, de très grande tenue, quoi.
Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à remercier Myrto Gondikas et Pierre Judet de la Combe et Laure Lai aussi pour la lecture. Merci.